et bienvenue sur Termchat 2.1, l'émission luso-descendante et luso-dépendante de Cap Magellan sur Radio Alpha, c'est tous les samedis et jusqu'à 16h. Avec moi, l'équipe de Termchat 2.1, Tony, Julie et Antonin.
Bottas.
Salut tout le monde.
Alors ce samedi, sur Termchat 2.1, on reçoit deux champions du monde d'Europe de Kettlebell. Alors Michael Alves-Rodriguez et Fred Faraya, bienvenue.
Bon dia.
Voilà.
Alors, on a une interview spécial pour vous deux en fin d'émission, mais avant on va débuter par le blind test d'Antonin. Bon, j'espère qu'il va être sympa. Alors le temps de s'échauffer, de se préparer, on débute par une musique d'ailleurs choisie par nos auditeurs. C'est Something in the Way de Nirvana. À tout de suite. De Termchat 2.1, c'est tout de suite sur Radio Alpha. Bon, Mickaël et Fred, est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
Prêt. Et vous qui nous écoutez, j'espère que vous êtes prêts également. N'hésitez pas à jouer avec nous.
À nous envoyer des réponses sur Instagram.
Oui, c'est possible aussi, on peut négocier, voilà. Est-ce que toi, Antonin, t'es prêt?
Ah ben, bien sûr, moi je suis prêt pour ma propre rubrique quand même, ce qui est un peu honteux de ne pas être prêt à ce point-là. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un blind test centré autour d'un style particulier, le style de cette dernière musique qu'on a écoutée, c'était Nirvana, Something in the Way. En fait, elle nous a été envoyée par un abonné. Pourquoi? Parce que elle a été réutilisée dans le film qui vient de sortir, Batman. Et du coup, elle fait partie de la bande originale du film. Et pourtant, c'est une musique des années 90. Ça a été un tube incroyable à l'époque. Et du coup, j'ai voulu me centrer un peu plus sur le genre, que cette variation du rock qu'il y a eu dans les années 90. Donc toutes ces variations autour du grunge, de la punk, du ska. Donc, je vais vous faire découvrir tout ça. Bon, d'habitude, le blind test, le but, c'est de découvrir tous les titres et les artistes de chaque extrait que je vais vous passer. Donc, j'espère que vous en trouverez quelques-uns. Mais comme cette fois-ci, c'est un truc plus
pas sûr,
focus,
hein.
Ça va être un peu plus dur. Mais peut-être qu'il y en aura certaines que vous connaîtrez. Écoutez, je compte sur vous. Je crois en vous.
Les
c'est parti.
Une chose, trouver les noms, ça va être un autre.
Tu peux nous aider sur Instagram, là.
Je pense qu'ils ont besoin d'aide. Donc, soyez présents sur les réseaux. Allez, c'est parti pour le premier extrait.
Elle a claque dès le début.
Elle est facile celle-là.
Attends, puis au moins faire semblant pour la première, tu vois.
Non, justement, je vous jette directement dans le bain. Celle-là, c'est par un groupe qui s'appelle Alice in the Chains. C'est un groupe de grunge et de plus avec des influences aussi heavy metal. Connu pour ses vocales très particulières. Ils ont eu un succès incroyable, internationalement parlant. Alice in the Chains, c'est vraiment 30 millions d'albums vendus dans le monde. Ça se place vraiment au sommet des groupes de grunge avec Nirvana. On a écouté juste avant. Et c'est maintenant parti pour découvrir un peu plus du côté portugais du style. Allez, c'est parti maintenant avec ce deuxième extrait. Alors ça... Ça m'étonnerait que vous y ayez ce...
Fred, tu veux essayer?
Ah, j'aurais dit Silence 4, mais...
Non, mais c'est un groupe de grunge portugais aussi. Ouais. Et tu viens peut-être de découvrir un des prochains extraits. Ah. Si t'arrives à reconnaître lequel...
C'est un visionnaire.
Exactement, non, parce que dans des prochains extraits, il y aura du Silence 4, donc peut-être que tu l'auras. Mais ça, c'est un autre groupe portugais qui s'appelle Ornatos Violeta. C'est le titre « Ouvi Dizer ». Ce groupe portugais, originaire de la meilleure ville là-bas, Porto,
ont été
très actifs entre 1991. Ils ont été très actifs entre 1991 et 2002, même si bon, il y a eu des réunions ponctuelles depuis pour des concerts. Ils sont malheureusement plus actifs et de par leur influence plutôt ska, fusion, funk, ils sont rapidement devenus des références dans ce milieu au Portugal. Et ils ont même participé à une reprise commune pour des concerts qu'il y a eu pendant l'Expo 98 avec entre autres sur scène ils ont repris tous la chanson Tempo de Nascer avec Boss AC, Zen, un autre groupe de grunge rock, et Blazed Mechanics, c'est plutôt de l'alternative de Lisbonne d'ailleurs, cela voilà, c'était Ornat,
je voulais de ouf.
Ah, mais c'était ça devait être un truc de fou.
Mais
ça,
en même temps, s'ils sont actifs pendant qu'on est pas né, c'est compliqué hein, de les connaître.
Exactement, mais écoutez, peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent, peut-être que justement vos parents vous ont fait écouter ça. Moi perso, c'est mes parents qui m'ont fait écouter ce.
Bah, moi je les remercie pas du coup.
En fait, la rubrique aujourd'hui, c'est ton style quoi.
Pas que. Et je sais que c'est notamment l'album de Nirvana, c'est un truc qu'on a écouté beaucoup dans les trajets au Portugal. Donc je le connais par cœur. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir que.
Nous aussi, ça se voit.
Écoutez, peut-être qu'ils auraient dû, hein. C'est parti pour le troisième extrait de ce blind test. I'm reading old letters. I thought it would be better if I put them, yes, I put them away, these stupid old letters. Alors,
Fred,
ça.
On compte sur toi.
Ouais, Silence 4.
Bah du coup, t'avais de la chance. Je l'avais trouvé juste avant. Est-ce que t'as le titre, peut-être?
Non.
C'est Old Letters.
Peut-être pas exagérer.
Tu vas un peu loin, là, Antonin.
Écoute, c'est première bonne réponse de ce blind test de cette rubrique un peu plus dure.
Il faut peut-être le rappeler, ça.
Un peu plus dur, s'il te plaît, Antonin.
Là, on pense le couteau de rappeler.
Je te jure.
Les pauvres, ils sont pas gâtés aujourd'hui. Mais en tout cas, Silence 4, c'est un groupe portugais qui a été formé à l'époque par des amis qui sont lancés en 96 dans la musique, dans un style, du coup, comme vous l'entendez, un peu plutôt grunge alternatif aussi, surtout. Il y a beaucoup de musique plus calme. Et d'ailleurs, ils chantent majoritairement en anglais, ce qui leur a valu beaucoup de refus par des boîtes de prod avant qu'ils ne signent chez Polygram, qui aujourd'hui a été racheté ou est devenu Universal, pour un album dont ils ne recevraient d'ailleurs que leur pourcentage s'ils n'atteignaient un certain nombre de ventes. Donc, ils avaient une sacrée pression sur eux. Et bien, justement, ce nombre de ventes fixé, ils l'ont éclaté. Ils ont eu un succès de fou. Il y a vraiment eu 250 000 ventes au Portugal, soit l'équivalent de 6 disques de platine, ce qui est vraiment remarquable sur la scène portugaise. Et ils ont fait une tournée dans la plupart des festivals portugais, et ils ont d'ailleurs fait le concert de fermeture de la dite Expo 98 Ils ont fait le concert de fermeture devant 50 000 personnes, un sacré palmarès. C'était Silence for All Letters. Et maintenant, on revient un peu plus sur l'international, et même un peu dehors du style grunge, c'est une musique de film. Peut-être que vous la reconnaîtrez, c'est parti.
Moi j'aime bien.
Oh, voilà. on aime bien la vibe. On écoute, on profite, voilà.
Bah, c'est tellement bien que j'avais oublié qu'il fallait jouer.
pas mal. C'est ça, c'est une musique de Chris Cornell pour le film James Bond Casino Royale. Je sais pas si vous l'avez vu ici. Casino Royale, c'est un film qui est sorti en 2006, si je me souviens bien. Et bah, comme à chaque fois, pour chaque version de James Bond, ils invitent toujours des artistes à réaliser la bande originale du film. Pour par exemple Spectre, ça avait été Radiohead et Adele. Enfin, Radiohead ont été d'ailleurs par la suite écartés du projet, mais c'est Adele qui a fait pour. J'ai oublié le titre.
Skyfall avant.
Skyfall, exactement. Bah oui, bien sûr, c'est le titre littéral.
T'as compté un point, ça, ou pas?
Oui.
Ça,
oui.
On va dire un demi point. Merci. De toute façon, en vérité, on compte jamais vraiment les points dans le blind test. C'est pas
pour le plaisir
de découvrir la musique. Et ouais, c'est ça. C'était Chris Cornell pour Casino Royale. Et c'est lui, c'est vraiment une référence internationale du style grunge. Et voilà, c'était pour James Bond. Allez, c'est parti pour le 5e extrait.
J'ai pas perdu espoir en fait.
Je sais jamais compter en fait.
Oui, on va pas se cacher. Mais celle-là, je pense que vous devrez la connaître. Après, trouver le titre et l'artiste, c'est peut-être plus dur. Allez, c'est parti.
Bah, du coup, Nirvana.
Nirvana, ouais.
Le titre.
Connaître, oui, mais
le
ouais.
Le titre, c'est... Je sais que je le connais,
ça
mais...
C'est Like Spirit, mais le début.
Très proche.
Ouais. C'est...
Proche, et donc
c'est... La réponse.
Non, j'avais l'impression que Julie l'avait sur le bout de la langue.
Non, mais je sais que non, je l'ai sur le bout de la langue.
Ça compte pas.
Non, je cherche même pas. Hein,
non, mais ça commence par Smear.
Ah oui, Smell Like Teen Spirit.
Tu vois, il y a eu l'éclair dans son regard.
Mais tu sais que...
On a trois mots, faut trouver le quatrième.
Tu sais qu'en plus, j'avais le titre pendant la semaine qui tournait dans ma tête, je sais pas pourquoi, voilà.
Ah voilà, en fait, on écoutait Nirvana en début d'émission, alors pourquoi pas continuer sur cette lancée. Ça, c'est Smell Like Teen Spirit, c'est vraiment l'hymne de ce style-là. C'est sorti en 91 et ça a fait vraiment tous les podiums dans les différents charts du monde. Un véritable banger et ce son est vraiment fou et a bercé toute une génération, mais le groupe, lui... donc Nirvana, ils en avaient un peu marre à force parce qu'on leur demandait toujours de jouer ce morceau. Est-ce que vous connaissez cette anecdote là sur le fait qu'ils en avaient marre?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'ils ont fait après ça?
Bah, ils ont fait d'autres musiques.
Ah, que justement, en fait, ça, un truc qui les énervait, c'était que on leur demandait toujours de jouer celle-là alors que pour eux, bah, il y en avait plein d'autres dans leurs albums qui étaient aussi bien, voire mieux. Et un jour,
iconique celle-là en même temps.
Ah, mais, bah, du coup, elle est devenue iconique par le
c'est
fait
rare,
que,
ça, quand même, hein, que de tout te monde... plaindre d'avoir du succès quand même.
Et bah, ouais, eux, ils sont allés encore plus loin que ça. Et à un moment, ils ont été invités sur une grosse émission télé pour la jouer. Et la télé britannique leur avait vraiment dit de jouer sur des parties de morceaux pré-enregistrés. Ça leur a évidemment pas du tout plu. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont littéralement fait exprès de mal jouer sur. Il y avait Kurt Cobain qui chantait trop bas avec un rythme à la guitare exagéré. Il mange son micro à un moment, il chante des paroles différentes de d'habitude. Le batteur aussi, et le bassiste aussi font n'importe quoi. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est la télé ne dit jamais à un groupe de grunge quoi faire.
Il a boudé.
Ils s'en sont vraiment mordus les doigts.
Révolution.
Après. Ah, mais c'est ça. Hein.
C'est génial, c'est trop drôle.
Ça, c'est la vibe, une des vibes du grunge, cette révolution contre le patriarcat et l'autorité. Allez, c'est parti pour le 6e extrait, l'avant-dernier de ce blind test. Là encore, c'est dur à trouver, désolé.
Bah ouais.
Mais c'est un groupe aussi portugais. Et en fait, c'était surtout pour découvrir des groupes de grunge portugais. Parce que même si. En fait, il y en avait beaucoup. J'ai découvert ça cette semaine parce que j'écoutais perso surtout du grunge international. Et j'en ai découvert comme du coup Zen, ce groupe-là. Il y avait, du coup, ce qu'on a parlé juste avant, Silence 4, mais il y avait aussi Olena Tuvioleta et bien d'autres. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Ça, c'est Zen dans leur album Rules, Jowls, Falls. et c'est le titre Lust the Devil's Night Out. Ils ont, en gros, c'est un groupe de Porto, encore une fois. Bon, je vous jure, j'ai pas fait exprès.
À peine, parce que là.
Le rock, Porto, c'est bon.
Le menteur.
Écoutez, peut-être que Porto était une meilleure ville musicalement parlant, mais écoute, je ne vais pas m'avancer là-dessus.
Coimbra et El Fado, c'est quand même pas mal. Hein.
Ah oui, clairement.
Donc je mais pense que Porto là.
Peut-être que ça vient de la vibe différente des deux villes. Donc que ce soit la vibe plus ouvrière, rebelle, du coup. Qui est...
Tu nous feras un exposé et tu nous présenteras ça.
Peut-être, bah, écoute,
je vais.
Voilà.
Dire qu'on a du mal.
Enfin voilà, Zen, c'est un groupe avec des influences grunge et heavy metal comme Alice in the Chains, qui est du coup un groupe plus international. Et ils sont plus actifs maintenant et leur dernier concert datant de 2011 au Art Club à Porto. C'est parti maintenant pour finir cette sublime test.
Super nage, voilà.
N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des mots.
Vous les écouterez pour la prochaine fois.
Si jamais on trouve la dernière, on a gagné, ok?
Ouh, bonne chance. Ce mec a une voix tellement grave. C'est berçant limite.
Alors,
je te vois essayer de.
Alors on te laisse jouer un tout.
Écoutez, je vous laisse découvrir ça. C'est Mark Lanegan et c'est en feat avec Dead Combo. Dead Combo, c'est un groupe portugais, justement, encore une fois. Et Mark Lanegan, j'arriverai toujours pas à dire son prénom.
Alors imagine-nous. Hein.
Exactement. Mark Lanegan, c'est lui un grand nom de la scène internationale grunge. Connu, bah, vous l'entendez pour savoir rock et envoûtante. Et en fait, ce musicien nous a quitté. Il nous a quitté jeudi dernier. Il faut savoir que c'était aussi un grand amoureux du Portugal. Il y a joué de nombreuses fois. Il avait créé une relation étroite avec du coup ce groupe-là, Dead Combo, avec qui il a collaboré sur l'album Odeon Hotel. Et ce titre, bah, du coup, il vient de cet album. Dead Combo, c'est pas vraiment un groupe de grunge à la base. C'est plus du blues rock. On a du mal à les ranger dans une case de style, mais ils sont vraiment particuliers. Je vous invite à aller les découvrir, Dead Combo. Et c'était en feat avec Mark Lanegan. Et ce son, c'est I Know, I Alone. Et ça a composé d'ailleurs à partir d'un poème de Fernando Pessoa, qui, dit-on, faisait partie des auteurs préférés de l'artiste Lanegan. C'était le livre qui s'appelle Who Lives Dos Assossegos. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais je lis.
Non.
En tout cas, c'était Mark Lanegan. Voilà, c'est la fin de ce blind test.
Pour un blind test, on était bien
merci,
blind.
Hein.
C'était pas le but de vous faire deviner cette semaine, c'était le but de vous faire découvrir de la musique grunge des années 90, surtout au Portugal, qui est plutôt méconnue ici en France.
Voilà. Super, bah merci en tout cas. Et on va finir avec Casino Royale, Chris Cornell, juste avant l'actualité sportive avec Tony. A tout de suite. Sur Radio Off avec Termstadt 2.1. On va faire le tour de l'actualité sportive avec Tony. Bon, Tony, je sais déjà que tu vas parler du foot.
Pas du tout, figure-toi.
Pas du tout?
Non, et bah si, évidemment. Vous avez pas pu le louper puisque le Portugal est en plein dans les barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, ça y est en fin d'année 2022, là dans quelques mois, au Qatar. Et pour y aller, on avait deux finales à jouer. L'une d'elles, c'est bon, c'était fait, c'est contre la Turquie jeudi, on s'est imposé 3-1. Est-ce que vous avez vu le match ici autour de la table?
Oui.
Moi j'ai vu.
Vous en avez pensé quoi? Vous avez vu lequel de but?
Le deuxième.
Ok.
Bah, bon match, hein.
C'était beau. Après le reste, j'ai pas vu.
J'en ai bien sorti alors qu'il nous manquait.
On s'en est très bien sorti même, oui. Vous avez pensé quoi?
Moi j'ai cru que ça allait. Ce qu'on avait
ça, vu. C'est mitigé. Jusqu'à 2-0, je trouve qu'avec tous les absents qu'on avait, on s'en sortait plutôt pas trop mal. Je trouve dommage que, comme d'habitude, on a tendance un petit peu à s'endormir sur nos lauriers et on attend d'être en danger. Mmh. Donc, qu'ils reviennent à 2-1 et que derrière le 2-1, d'ailleurs, on a quand même tremblé jusqu'au pénalty raté, quand même, on va pas se mentir.
Ouais.
Donc, c'est quand même, je trouve qu'à chaque fois, on joue quand même, on est dangereux dans cette manière de faire, on n'est pas assez rigoureux, voilà. Mais dans un autre sens, il faut quand même avoir cette faculté à revenir après tempête qu'on s'est pris.
Pour une fois qu'on l'a, quoi.
Voilà, et c'est quand même positif. Et puis surtout qu'on a vu des nouveaux visages. En tout cas, moi, j'ai vu des nouveaux visages. Le dernier qui a marqué...
Matteo Gnoun.
Voilà, moi, je le connais moins. Je ne je peux pas suivre tout le temps le championnat portugais. Et donc, du coup, c'est des belles découvertes. Donc, on s'en sort pas trop mal.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Première bonne nouvelle. Et la deuxième finale, du coup, c'est mardi contre la Macédoine du Nord. Et on va pas se mentir parce qu'on pensait tous qu'on allait, on pensait tous à affronter l'Italie.
Est-ce qu'on parle des Italiens ou pas? Parce que.
Bah, on peut en parler.
C'est
on,
grave.
On va être honnête, ce match-là, il le joue 10 fois, 9 fois sur 10, il le gagne. 30 tirs à 5, je crois, ils me prennent un but dans les dernières minutes. Bon, c'est le football, on n'est pas à l'abri. Hein, parce que je vois plein de gens dire c'est bon, on est au Qatar, on est au Qatar, on est au Qatar.
Mais les pauvres, champion d'Europe en plus. Hein.
Bah oui, c'est ça, les deux derniers champions d'Europe.
Et en plus, ça fait deux années qu'ils se qualifient pas.
Enfin, c'est ça, c'est la deuxième Coupe du Monde.
C'est ce que j'allais dire, deuxième Coupe du Monde de leur histoire pour une nation comme l'Italie. Mais c'est un drame national. C'est un drame national, champion d'Europe en titre. Enfin, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Contre la Macédoine, quoi.
C'est ça, avec tout le respect qu'on a pour eux. Mais bon, bien sûr, sur le papier, ça reste l'Italie, quoi.
Complètement.
Attendons le match mardi.
C'est ça.
Et après, on parlera de la Macédoine.
Non, on ne leur retirera pas leur exploit qui mérité, ça oui. C'est qu'il y a ce genre jugé.
Mais il faut pas qu'ils pensent qu'ils vont têche aussi les Portugais, hein, parce que là, les Italiens, ok, pas les Portugais. Hein.
Normalement, les absents, il y en a certains qui reviennent, alors je sais pas qui exactement.
Normalement, Cancelo est suspendu, donc il sera là. Pep également devrait être là. Bon, on verra, ça va dire.
Il nous a manqué, qui se trouve au niveau de la charnière centrale, ouais, hein, notamment sur le 2-1, justement, ou même sur le pénalty. C'est Fonte hein, qui est moins lucide. Ouais. Pep, il le fait pas cette faute-là. Jamais de la vie.
Et puis, il installe une sécurité, une sérénité dans la défense aussi qui est pas négligeable.
C'est un patron. Ouais. Il nous manque. Hein.
Clairement, ouais.
Ah ouais.
À 36 balles, il est encore là. Quoi.
Ah ouais, moi je suis pas rassuré quand il est pas là.
Et je me rends compte, c'est presque devenu l'habitude pour la Suisse de passer par les barrages ces derniers temps. Que à part en 2018, parce que on remonte encore avant, en 2014 contre la Suède. Oh, ouais. On va en barrage. Bon, et bon, Cristiano qui fait Cristiano quoi, qui nous emmène tout seul pratiquement au Brésil. Deux ans plus tôt, pour se qualifier à l'Euro 2012, on va en barrage contre la Bosnie. Et deux ans plus tôt, pour la Coupe du Monde 2010, on retourne en barrage, c'était déjà contre la Bosnie. Donc, on serait bien qu'ils se qualifient un peu du premier tour, ça nous évitera quelques sueurs froides.
Ouais, s'il vous plaît.
Ah, c'est vrai, ils adorent. Hein. Ils adorent.
Ça, le pire adversaire du Portugal, c'est Portugal lui-même.
Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Fou. Hein. Il faut c'est le strict vrai. Minimum du. Ouais.
C'est fou.
Faut pas être cardiaque quoi. Parce que moi j'en peux plus. Hein. Moi des soirées comme jeudi là encore, ça m'a rappelé les dernières Coupes du Monde Euro.
Mais vous le voyez pas vous. Vous le voyez pas. Ah non, ça quoi ça ressemble.
On veut savoir.
On veut savoir.
C'est impressionnant. Tout ce que je peux dire, c'est impressionnant.
Il paraît.
Et ça c'est pour les grands. Et les petits Portugais aussi, les U21 ont joué, c'était hier soir. Ils disputent en ce moment la campagne de qualification pour l'Euro. Eux, c'est pas la Coupe du Monde, c'est l'Euro. Ça se passe plutôt bien. Bon, on est deuxième, mais avec un match de moins. Et les matchs de moins qu'on a, on a un tout petit point de retard à rattraper. Donc, quand on voit la qualité des joueurs qui ont été convoqués, il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. On se fera un point la semaine prochaine pour voir s'il y avait raison d'être confiant ou pas. Et on va changer de terrain désormais parce qu'on va aller au cyclisme. Voilà, j'ai une excellente nouvelle parce que João Almeida, un coureur portugais, est en tête du Tour de Catalogne. Donc, il a dépassé Nairobi Quintana, donc on espère que ça va rester comme ça et on le tiendra au courant.
C'est super.
Ouais. Puis c'est pas n'importe qui l'a dépassé. Hein.
Ouais. Ouais.
Et puis quand il y a une bonne nouvelle comme ça, on surfe dessus, vous m'excusez le jeu de mots.
Super transition.
Vous m'excusez le jeu de mots.
Magnifique.
Mais ce qui compte, c'est que Francisco Veselko et Thérèse Bonvalo ont atteint les demi-finales du circuit Pro Nestalia qui se joue en Israël. C'est une épreuve qui sert de qualification pour le mondial de surf. Bon, bientôt fixé sur si les filles vont aller en finale ou pas et se qualifier. On y est presque, donc bon courage.
Allez, bon courage les filles. Merci Tony pour toutes ces infos. Et dans quelques instants, place à l'échange de la semaine. Saviez-vous qu'une Portugaise a gagné un prestigieux prix cette semaine aux États-Unis? Alors restez bien avec nous pour tout savoir sur le tour du web de cette semaine. A Guerra dos Meninos, Roberto Carlos.
Eu tive sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou.
La 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 ciência, a sabedoria da simplicidade me dizia que tudo é mais forte quando todos cantam a mesma canção e que eu devia ensinar a todos por ali. E quantos mais houvessem para ouvir, e a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. Pequeno hino, quando vi que alguém também cantava, vi minha esperança na voz de um menino que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além, deixavam de brincar pra vir também, e cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100.
L'échange de la semaine sur Termstadt 2.1. Alors cette semaine, j'ai fait le tour du web, hein, comme chaque samedi. J'ai vu des infos bonnes comme mauvaises, mais j'ai décidé de vous offrir que de la bonne vibes.
Allez, trop cool. Avec plaisir.
Que des bonnes informations. Sur la vague.
Ah ouais, je sers. Voilà. Alors ce mardi, la créatrice Maria Pucci-Stable, donc je ne sais pas si vous connaissez, elle a une chaîne sur YouTube, elle a lancé son émission, sa série télévisée, et elle a remporté le prix de la catégorie Spotlight lors de la 13e édition annuelle des Taste Awards aux États-Unis. Alors les Taste Awards, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les récompenses annuelles et les plus importantes pour l'industrie du divertissement lifestyle. C'est une Portugaise qui a remporté ce prix cette année aux États-Unis. Génial.
Pas mal.
Félicitations.
Très bien même.
Ouais. Très bien, oui, c'est cool. Ça va, même cool. Aux États-Unis, on est représenté.
C'est ça, mais elle vit aux États-Unis ?
Comment ?
Elle vit aux États-Unis.
Exactement, elle vit aux États-Unis. Elle a lancé son émission télé aux États-Unis.
Mais non, ah
elle
a remporté ce prix.
Faut qu'elle nous invite, voilà.
Elle sait pas ce qu'elle perd.
On peut l'inviter aussi.
Et en plus, elle cuisine de bons petits plats. Donc,
faut qu'elle nous invite.
J'attends
aux États-Unis. Ça, c'est la vraie question.
Ça, c'est bien.
C'est vrai qu'on aille voir là-bas pour voir si elle cuisine portugais.
Voilà, on ira lui rendre visite. Pour la deuxième info, alors, ce jeudi 24 mars, ça vous a marqué ou pas ?
Ouais.
Je sais de quoi tu vas parler.
Tu sais de quoi j'ai parlé ?
De quoi elle va parler.
Parce que j'ai vu, parce que comme Magellan, cette date en évidence.
Je l'ai vu.
Eh bien, ce jeudi 24 mars, c'était un jour marquant. Le Portugal a vécu plus de jours dans une démocratie que dans une dictature. Soit, il a dépassé les 17 500 jours.
Donc, depuis jeudi, oui, on a vécu plus de liberté que de sous-éducation.
Exactement. Donc voilà.
Je l'ai dépassé dans la semaine.
Et pour l'occasion, à Lisbonne, plusieurs célébrations ont lieu et se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc voilà, c'est important de célébrer la liberté.
Bonne pour faire la fête, de toute façon.
Toi, Tony, pour faire la fête, tu es présent.
Mais non, mais là, ça se fête quand même.
C'est vrai, ça se fête. Ça se fête.
En plus, après, on enchaîne avec Pâques. C'est quoi, tu nous l'as fait ?
Et après, on enchaîne avec le 24 avril, qui est une date importante.
Ah bah oui.
Stade, un an d'émission. Donc voilà, ça
et
se fait.
Et le 25.
Et le 25 avril. Et voilà, on enchaîne.
Tout s'enchaîne, c'est incroyable.
C'est pas pour nous déplaire.
Et la dernière info de ce tour du hub, alors celle-là, elle a retenu mon attention. L'influenceur brésilien du projet Pobre Na Cozinha sur YouTube, qui fait d'ailleurs des super vidéos, hein, a affirmé avoir découvert une recette.
Oula.
La recette des frites de McDo.
Mais non.
Et si, Antoine.
Il y aurait un secret derrière ça ?
Il y a un secret.
C'est pas juste des frites comme ça.
C'est ce que j'ai dit, c'est pas juste des pommes de terre.
C'est tellement bon que.
Je pense qu'il y a du sucre.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, il y a du sucre.
J'en reste convaincu, persuadé.
Il y a des conservateurs et des trucs comme ça.
Il y a du sucre.
Conservateur, ça, c'est presque sûr aussi, mais.
Peut-être pas le sucre.
Ouais. J'ai du glucose, du sirop de glucose, un truc comme ça.
Tu mets dans ton café, mais. Pardon, excuse-moi.
Mais il n'y a pas de sucre dans la recette qu'il a donnée, et pourtant, alors, dans sa recette, l'astuce consiste à couper les pommes de terre très finement. Ajouter 50 ml de vinaigre dans la casserole, du vinaigre, de l'eau, jusqu'à ce que les pommes de terre soient complètement recouvertes. Elle les laisser reposer comme ça 10 minutes. dans la casserole. Okay. Faut attendre. Et ensuite, on a une pomme de terre qui est donc plus consistante et plus croustillante.
D'accord.
Donc voilà, je vous laisse tester chez vous.
D'accord.
Non, mais après,
dans le vinaigre, en fait, ça serait le secret.
Ouais. Ouais, apparemment, le vinaigre, c'est
rien
le secret.
D'autre.
Le vinaigre, l'eau. Ouais. Non, c'est tout.
D'accord.
Après, les frites de McDo, du... est-ce que ça vaut le coup, quoi? C'est la question que
tu parles un peu trop mal, je trouve.
Non, mais.
Tu critiques ce que tu veux.
En fait, les frites de Five Guys.
Tu critiques ce que tu veux.
Ça, limite, voilà. Les Five Guys.
La curiosité me dirait que j'aimerais bien tester, tu vois. Après, oui, je suis d'accord avec toi aussi que bon.
S'il avait dit les frites de Five Guys, là, je fonce, là, j'essaye.
Bah, la prochaine fois, je vais essayer de la trouver, cette recette.
Vas-y, avec plaisir.
Je te la dirai. Et donc, pour finir, là, on va faire un petit jeu. Un petit jeu comme chaque samedi, c'est le jeu des trois propositions. Alors, trois propositions, dont deux intrus, et cette semaine, comme on a deux champions avec nous, le thème, bien sûr, c'est le sport.
Ah.
Alors, je vous pose une question, et vous devez, bien sûr, trouver la bonne proposition. D'accord. Alors, qu'appelle-t-on une biscotte dans le monde du sport?
Au rugby, particulièrement?
Non, arrête.
Biscotte, c'est la carte jaune.
J'ai pensé à ça. C'est que j'ai pensé à ça.
Tu penses à quoi, du coup?
Je pense pas que ça c'est la proposition, j'espère pas.
Non,
troisième mi-temps, bon, biscotte,
Non, je pensais à carton jaune.
Ouais, c'est ça, ouais.
Je pense à ça, ouais.
Un carton. Alors,
comme proposition, on a un joueur qui a fait une mauvaise prestation, un carton ou l'arbitre.
Oh, c'est un carton.
Carton,
il a raison.
Ouais, carton jaune.
Ouais, c'est carton, c'est vrai.
Clairement.
Carton jaune, la biscotte.
Je suis, hein. Moi je vais vous suivre tout le
temps. Eh bien, c'est un carton.
Oui, c'est
vous
vrai.
Commencez bien, c'est un carton.
Et pas un carton, voilà.
C'est un terme
succès,
familier.
Un carton,
oui, un carton jaune, ça. Exactement. Ouais.
Sanction.
Exactement, une sanction. Allez, prochaine question. Quelle équipe de football a remporté le plus grand nombre de coupes du monde? Là, je suis gentille avec vous.
Est-ce que Brésil,
le Brésil parle.
Alors, on a l'Italie, l'Allemagne ou Brésil?
Brésil.
Brésil, ils ont dépassé l'Italie.
5.
L'Allemagne.
Ouais, je crois.
C'est le seul à 5, je crois.
Ouais, c'est le seul à 5.
Allez, vous êtes forts, vous êtes forts. C'est le Brésil, ouais. Avec 5, et l'Italie, l'Allemagne, 4.
Ouais.
Prochaine question, combien de joueurs composent une équipe de rugby?
15. 15, 7 ou 13.
Ça dépend de quel rugby tu parles, en fait.
15, 7 ou 13.
Ouais, c'est 15. D'accord. Ouais. 15 de France. Bien vu, Antonin. Vous êtes trop vif là pour moi. Quel est le plus grand et le plus beau stade au Portugal?
Stade de Dragão.
Stade de Luz.
Stade de Luz.
Stade de Dragão.
Overland.
Respecte déjà le nom.
Overland. Je respecte, je respecte.
Stade de Luz.
Les trois.
En vrai, si on est totalement honnête.
Non, soyez honnête, c'est une vraie
question. Pour moi, le plus beau, c'est celui de Braga.
Ah non, mais là, t'as fait. Attends.
Non mais
je te rejoins. Je te rejoins.
Et puis ça va parler en tenant toi l'architecte parce que bah, je sais pas, c'est le stade, il est construit, une partie du stade est construite dans la roche.
Ouais.
Ouais, très bien.
C'est vrai qu'il est atypique. Et
en termes d'esthétique pure, c'est vrai. Je t'aurais déçu là.
Non mais en fait il a été conduit par un architecte qui a gagné le Pritzker.
Bah ouais, toi tu voulais Bintika, toi c'est pour ça.
Non mais. Tous, je vous donne la réponse, hein, c'est Stade de Rouge qui est le plus grand.
Le plus grand, oui.
Le plus grand et le plus beau.
Le plus beau, c'est plus. Voilà, c'est.
En fait, le plus beau, voilà.
Et en termes de capacité, c'est lui.
Et c'est d'ailleurs l'un des plus grands d'Europe également.
Ça va pas me fiquer, Stade de Rouge.
Moi, si, si.
Ça va pas, non.
Je sais pas pourquoi je dis.
Toi, tu ne l'es pas en tout cas, Fred.
Moi, je, non.
Allez, prochaine question.
Quelle erreur.
La cacahuète dans le monde du sport signifie. Une boule de ping-pong? Une raquette de hockey ou une puissante frappe?
Une frappe, je pense.
La cacahuète.
Je prendrais la troisième, la frappe.
Moi, frappe, c'est plus une praline.
Ouais, une praline, ouais.
Mais il faut arrêter avec la bouffe, là.
Une boule de ping-pong, une raquette de hockey ou une puissante frappe?
Une raquette de hockey.
Bah, j'aurais dit le hockey, ouais.
Okay.
Moi, je pense la troisième.
Okay, hein, une frappe.
Ouais, parce qu'on
dirait quelle cacahuète.
Une cacahuète, peut-être.
Une cacahuète, c'est pas une puissante frappe. J'ai l'impression que c'est plus sur une petite frappe pour bien placer.
Ça, c'est parce que vous voyez le foot, mais si tu parles dans les sports de combat, on va dire, ah, t'as mis une bonne cacahuète, tu vois, t'as mis un
tête,
tu vois.
Mmh.
Donc, et la patate, et moi, je sais pas, une cacahuète, c'est pour l'apéro.
aussi.
Faut arrêter avec la bouffe.
Eh bien, une cacahuète, c'est une puissante frappe de 35 mètres. Donc, il laisse le gardien figé. Voilà, ça fait toujours plaisir à voir, quand même. Une cacahuète.
Ah bah, Hulk.
Je préfère à l'apéro.
Ça se rapporte au monde du foot. Prochaine question. Le Portugal s'est sacré champion de futsal combien de fois?
Au moins.
Deux fois, trois fois ou quatre fois?
Et 10 fois.
J'avais dit 4.
4 fois, Antonin?
On parle du
non,
monde,
deux,
là.
Non, deux.
Du monde, on parle.
Ah, sans compter l'euro, du coup.
Exactement.
Monde, hein.
Je pense que c'est plus que deux.
Je pense que c'est deux. La dernière fois, on a dit deux. On a dit il s'est resacré pour la deuxième fois.
Mais parce qu'ils ont gagné.
C'est à dire trois. Mais s'il resacré.
Après là, j'ai mis l'euro et la Coupe du Monde ensemble.
Ah oui.
Mais le titre est sûr. On a
dit
quatre.
J'aurais dit le max alors.
Bah, je dirais quatre. Si c'est les deux réunis, ouais.
Quatre.
Ils sont très bons.
Et je crois qu'ils ont gagné les trois dernières compétitions, donc ça fait déjà trois. Donc, il y en a certainement une avant, donc ça fait 4.
Ouais, mais là, rien que cette année, ils ont tout gagné, donc...
J'aurais dit 4.
Eh bien, c'est 3.
Ah ouais ?
C'est
3.
Et c'est déjà pas mal. Alors, après l'Euro en 2018, et la Coupe du Monde en 2021, où le Portugal remporte une troisième compétition internationale. Et ensuite, on a notre victoire en 2022 face aux Pays-Bas.
Ça. C'est 3 dernières, c'est ça.
Voilà.
D'accord.
Je pensais qu'il y en avait une quatrième avant.
En fait, sur 2 ans, ils ont...
La prochaine, l'année prochaine, ça fera 4. On l'espère. Voilà. Allez, prochaine question. Bon, je pense que là, vous allez avoir la réponse. Quel est le nom du sport dans lequel on soulève de très lourdes charges ? Calisthénie, l'haltérophilie ou maçon ?
Alors, les deux dernières sont bonnes.
Maçon.
Les deux dernières sont bonnes.
La réponse que tu veux.
J'hésite avec la dernière.
La dernière,
l'haltéro,
pas.
L'haltéro.
Mais c'est l'haltérophilie également. C'est la bonne réponse. Et j'ai une dernière question pour vous. Combien d'heures un sportif de haut niveau doit-il dormir ? Donc c'est une moyenne.
Bah 8 comme tout le monde.
9, ouais, j'ai 9. Ouais.
Alors, comme proposition, j'ai 6 heures, 8 heures ou 11 heures ?
8.
Par jour ?
Comme tout le monde.
11.
Par nuit, ouais.
C'est par nuit ? Parce qu'il peut y avoir chaque la sieste et tout l'après-midi, c'est
chaque
pour
chaque
ça.
Nuit.
Ouais, ça dépend.
Tout est 24 heures en fait. Tout est 24 heures, faut qu'il dorme combien, c'est ça ?
Ouais, faut qu'il dorme 11 heures.
Ouais, je dirais 11 heures.
Bah ouais, parce qu'avec la sieste,
11 heures.
Ouais, je dirais la nuit plus la sieste.
On a une moyenne de 10 à 13 heures. C'est vraiment c'est une pratique intense du sport. Sinon, si vous pratiquez le sport de manière modérée, 8 heures par jour.
Et si tu pratiques pas du tout de sport, c'est 3 heures, c'est ça
Tu dors pas.
Tu choisis, je sais pas. Mais généralement, c'est 8 heures pour tout le monde.
Je crois que le muscle, il se répare pendant la nuit, non ? Il n'y a pas quelque chose comme ça ? Les sportifs.
Enfin, si tu veux, 80% de la récup, 80% de la récup de tous les process de récup, comme ça, c'est le sommeil. Okay. Donc tout ce que tu fais autour, c'est 20%.
Et vous, en général, vous dormez combien d'heures après vos entraînements ?
Alors moi me concernant je dors entre 6 et 7 heures maximum par nuit, mais j'ai toujours une sieste par jour qui peut varier entre 20 et 40 minutes.
Okay. Voilà. Je suis près des 5-6 heures.
C'est pas beaucoup.
Ouais, non, je pas beaucoup. Et ouais, je suis une petite sieste de 20 minutes. Okay. Quand j'ai le temps.
On n'est pas des gros dormeurs.
Bon, toi, Tony, je te pose pas la question. Hein.
Bah, non, moi, je fais ma nuit des 8 heures et puis basta. 7-8 heures en général.
Mais
et puis,
c'est pas un sportif de haut niveau, de toute façon.
Après, la génétique qui rentre en compte. Hein. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup dormir, d'autres beaucoup moins. Il y en a que s'ils dorment trop. Ils vont être fatigués. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça.
Si.
Tu sais, de beaucoup dormir sur une journée. Le soir, t'es pas bien, si tu remarques bien. Tu vois, t'es un peu mou, t'es voilà, donc je pense que ouais, c'est propre à chacun.
Je trouvais les incites aussi, t'es peut-être dans le pâté toute la journée. Tu sais, des cycles, c'est 1h30 à 2h.
Ouais.
Donc une fois que tu connais ça, tu sais combien de temps il faut dormir.
Ça varie en fonction de chaque personne. Bon, c'est la fin de ce jeu, c'est la fin de ces informations et de l'échange de la semaine. Juste après, on a le Savi-HQ avec Julie. Et cette semaine, on va parler des légendes portugaises. Allez, on écoute New Life de Lefa et on revient tout de suite.
Accidenté, j'ai dû me réparer, mais je suis pas mécano. Je reviens du front encore assourdi par le bruit des canons. Y'a que ceux qui ont pas tourné les talons qui devraient prendre du galon. Mais tu verras que très souvent les gagnants, c'est ceux qui avaient le ballon. Et tous les matchs de la saison, j'ai joué les demi-temps. Pardon si ma qualité de vie augmente un demi-ton. Ils vont jalouser au point d'insulter mère et tante. Pourquoi la réussite d'un méritant serait-elle irritante? L'attaquant est irritante. Et quand il rate, c'est toute une ville qui tremble. Ouais. Une ville qui tremble comme une fille qui trompe et qui rentre, pleine de culpabilité devant un mari qui rampe. À chaque apparition, je vise la masterclass. Mais devant la starification, mon visage se glace. J'ai pas besoin de prendre un max de place, c'est pour ça que je cache mes yeux devant les flashs. Trop longtemps j'ai cru les gens, j'étais naïf. J'suis au commencement d'une new life. J'serai pas ralenti par les doutes. J'suis au commencement d'une new life. Ça va vite, ouais. Réseaux sociaux, c'est pas ça la vie. Non, je serai pas ralenti par les doutes. Non, je suis au commencement d'une new life.
choses à cœur, je vais prendre du recul. Plus rien attendre des gens, c'est se libérer de toute forme de rancune. Je le pige un peu tard, je pense à toutes les fois que j'ai lésé, les liens que j'ai fragilisés, je pense à tous les froids que j'ai laissés. Et quand l'ego s'en mêle, les conseils sont pris comme des leçons. Les vérités sont blessantes, les avis deviennent oppressants. Un besoin pressant d'avoir raison, les mots deviennent inflammables comme de l'essence. Retour à l'adolescence. J'aspirais plus mon temps pour les gens, c'est dead. Fuck ma répute, j'ai pas peur de ce qu'ils vont penser d'elle. Je me suis battu sans relâche au point d'être dépendant du glaive. Tout ça pour convaincre des têtes que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Trop longtemps j'ai cru les gens, j'étais naïf. J'suis au commencement du new life. J'serais pas ralenti par les doutes. J'suis au commencement du new life. Et ça va vite, ouais. Réseaux sociaux, c'est pas ça la vie. Non, je serai pas ralenti par les doutes. Je suis au commencement d'une new life.
Termstad 2.1, Radio Off. Hoje é o último sábado do mês e é por isso que a Julie vai falar das lendas.
Exato, e hoje, como sempre, tenho três lendas portuguesas para vocês. Mas, primeiro, eu já sei que já pedi muitas vezes aqui, mas vocês os dois conhecem as lendas da vossa zona, cidade ou aldeia em Portugal ou nem por isso?
Não. Conheço o Galo de Barcelos, clássico.
Toda a gente já falei dessa.
Deixe-me ser.
Hoje vou para lendas um bocadinho menos conhecidas, se calhar. Vou começar com a lenda da Senhora que Passou. Conhecem?
Eu conheço. Ela vem da minha zona.
Ela conhece tudo.
Então, tudo não é bem assim.
Sim. Nas lendas ela sabe tudo. Então, esta lenda sim é em Vila Verde, Braga. Um pai e a filha caminhavam pela estrada quando resolveram parar para descansar. A filha, Joana, cheia de sede, foi até ao riacho beber água. De repente, ouviu uma voz de rapaz e apercebeu-se que vinha do riacho. Este disse que estava apaixonado por ela e que se transformaria em rio para segui-la. O riacho pediu à Joana que lhe beijasse as águas e que murmurasse amor para cerrar a promessa. Esta teve que ir embora logo depois de o ter feito. Voltou à noite e o riacho tinha-se transformado em rio. Pediu-lhe que se transformasse em homem, só que o pai apareceu no instante e ficou cheio de raiva por ver a filha com o rapaz. Foram logo embora e o rio nunca mais viu a Joana. No dia seguinte, conta o povo, ouviam-se lamentos com voz de homem vindos do lado do rio. A senhora passou por aqui? Passou, passou? Perguntava a voz. Diz a lenda que de tanto repetir estas palavras, o lugar ficou conhecido por Passou. E o rio chamou-se Rio Homem. Da jovem Joana nunca mais se soube, mas sua memória continua viva em Vila Verde. É bonita?
É.
Um bocado triste. Um bocado triste, não é? E a Dina, da qual falamos a semana passada, de Aprendre le Portugais avec Dina, contou-me uma lenda da minha zona, da minha cidade, de Covilhã, que eu não conhecia, sobre a origem do nome de Covilhã. Então, há três versões diferentes. Pode vir simplesmente da geografia. Covilhã de Cova Júlia, porque antes de Cristo, Júlio César, comandante supremo dos romanos, conquistou a Cova Plana e ganhar este nome devido à sua localização nas serras. Também pode vir de Covil de Alã, dado a importância do rebanho na região. Mas há uma lenda, a lenda do Conde Julião, que era o governador de Ceuta. Ele tinha uma filha chamada Florinda, muito bonita, muito formosa, então o pai queria casá-la bem. Foi apresentado ao rei Rodrigo, o rei dos Visigodos. Ele apaixonou-se por ela e tiveram uma relação. Até se diz que o rei abusou dela em vez de encontrar um bom noivo. Quando o conde soube, ficou muito chateado, claro, porque a filha já não era virgem, e então pediu apoio aos mouros para atacar o rei dos Visigodos, e foi assim que foi conquistada a Península Ibérica. Florinda ganhou muita má fama e começou a ser chamada de Cava, que era um insulto para mulheres na época, quer dizer mulher pérfida. Refugiou-se então nas montanhas, na Serra da Estrela, e diz-se que o nome vem de lá, Cava Juliana. Interessante,
eu não conhecia esta lenda.
Eu também não. É da minha zona, mas não conhecia, estás
que
a ver?
Que vergonha.
Oh, tu estás a falar com o Milagre das Rosas, também não conhecias,
claro,
né?
Claro que conhecia.
Tá. Mentiroso. Então, vamos. Última lenda. A lenda da Senhora de Nazaré. Que não, também não conhecem? Em setembro de 1182, já faz muitos anos. Caçava o Dom Fuas Roupinho. Ficou envolto por um denso nevoeiro e viu um veado que começou então a perseguir para matá-lo. Disse que o veado era o diabo, pois levou até a falésia em perigo de morte. Dom Fuas reconheceu o local. Estava mesmo ao lado de uma gruta onde se venerava uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus. Pediu então em voz alta: Senhora, valei-me! Miraculosamente, o cavalo parou, ficando com as patas suspensas no vazio, salvando o cavaleiro e a sua montada de uma queda de mais de 100 metros. Diz o povo que ainda se podem ver as marcas das ferraduras do cavalo de Dom Fuas Roupinho marcadas na rocha. Incrível, não é? Mas não acaba aqui. Mesmo se o mais impressionante acabou. Dom Fuas desceu à gruta para agradecer pelo milagre, mandou construir uma capela, a Ermida do Milagre. Ao construí-la, os pedreiros, entre as pedras, encontraram um cofre em marfim, no qual se encontravam relíquias de São Brás e São Bartolomeu, tal como uma imagem original representando a Santíssima Virgem Maria sentado num banco baixo a amamantar o menino Jesus. Milagre sobre milagre, podemos dizer, não acham? A cidade de Nazaré ficou conhecida por isso, além da lenda das sete saias da qual já falamos aqui.
E do surf.
Pronto, obrigada, Julinho.
Tem uma preferida nas três? Ou...
A última.
Ah, eu preferia a primeira, mas pronto.
Pois é, amor.
Mas ao menos ficaste a conhecer uma lenda.
Eu fiquei a conhecer três.
Claro, nós todos. Obrigada, Julie. E daqui a pouco vamos descobrir o artista que vai apresentar o Tony esta semana na Tempestade 2.1. É já a seguir e vamos ouvir Fica de Domingos. Até já.
E se não for para sempre, nós vivemos o agora. Foste o meu maior presente, fazendo-me ir embora. Contigo o tempo passa, eu nem dou conta. Olhos nos olhos, arrepio-me de ponta a ponta. E é verdade, o teu amor fez-me sócio. E na cabeça eu organizo momentos em portfólio. Já nem ouço os ponteiros do relógio. Mas neste caso o barulho é a alma do negócio. Tic-tac, não se ouve o tic-tac. Com a tua voz por cima e as paredes já não falam, que é para não estragar o clima. Apaga a luz e fica a vela. Como a Da Vinci Mona Lisa numa tela. E essa miúda realiza tudo o que eu desejar, porque ela sabe o que eu desejo sem eu ter de falar. Eu já não estou a gostar, ou estou a gostar demais. Tão bom não dura para sempre. Por favor, diz que não vais, que não sais do meu lado, porque eu agora já estou mais que habituado. Que habituar, yeah. Tu és a miúda que me faz correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Se for para passar, vamos viver a vida sem planos. E se for para ficar, que seja cá por casa. Encosta no meu peito e o meu tronco abraça. Só não provoques danos. Fica lá mais uns anos, tu fica lá mais uns anos. Se não for para ser para sempre, eu prometo desta vez vai ser tudo tão diferente. Põe a mão no coração, sente só a pulsação. Acelera o pé de ti, acredita, ela não mente. E eu vou fazer tudo para te ver.
Passez sur Radio Alpha, c'est Tempestade 2.1. J'espère que votre après-midi se passe bien. Merci d'être avec nous sur Radio Alpha. Ça fait une heure qu'on est ensemble. Alors, Mickaël et Fred sont toujours avec nous. L'interview approche à grands pas. Mais avant, on va parler musique avec Tony. Il nous présente un artiste chaque semaine. Et aujourd'hui, Tony, alors, il ou elle?
C'est il. C'est l'avant-dernier de la fratrie Querelle. Donc, c'est pas Mickaël, c'est pas Sarah non plus. Il en reste qu'un, c'est David. Et on commence comme d'hab en musique, c'est Boom sur Radio Alpha.
Comme dans un film au ralenti, zoom. La dernière image, toi qui t'enfuis, boum. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et boum. Dehors il fait gris, clap de fin puis zoom. Le taxi en bas qui démarre et boum. J'ai le cœur qui bat au ralenti, boum. Dans tes yeux je vois tout est fini, boum. Notre histoire d'amour sous la pluie c'est cool. Ne pas repenser à toi surtout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Ton souvenir me poursuit. Tu es dans toute mes nuits. Tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire.
Comme son frère et sa sœur, David Carell pousse ses premiers cris adourdants dans l'Essonne en Ile-de-France, ce qui explique le pourquoi du comment des chansons en français. Et faut savoir que David a eu deux vies en une. Donc on s'intéresse essentiellement à la deuxième, celle qui concerne la musique, mais la première, beaucoup l'ignorent. À cet instant précis, le clan Carell a déjà posé ses bagages à Lisbonne, c'est le cas depuis 2001, et comme beaucoup de Portugais, David Carell est fan de foot. Parce que lui en plus, il est doué. Et il intègre le centre de formation du Sporting, qui est, et là pour le coup sans faire de clubisme, l'un des meilleurs du monde.
Oui,
c'est
oui,
celui
oui,
qui a
oui,
vu
oui.
passer Luis Figo ou encore Ronaldo. Et le football devient de plus en plus un objectif pour lui, sauf que bah voilà, pour qu'il y ait une deuxième vie, il faut que la première s'achève. Il se blesse au genou, donc ligament croisé, tu connais. Et pendant sa convalescence. Il s'intéresse à la musique. Et c'est de là que ça part. On peut dire qu'il a un bon exemple à la maison avec son père Tony.
Non, voilà, un petit chanteur. Hein.
Et David quitte alors les vestiaires des stades pour rejoindre le milieu artistique. Chanteur, acteur, mannequin, il touche à tout et il le fait encore aujourd'hui, il est encore acteur. Et se lance définitivement dans la musique à 20 ans. On est à cette époque-là, on était en 2011, on a fait un bond de 10 ans. Et il sort son tout premier album, numéro 1. C'est pas fatigué. Le projet est un réel succès, il est certifié double disque de platine. Et comme si c'était pas suffisant, il reste au top des charts pendant 43 semaines consécutives.
Mieux que son père, finalement.
Je me prononcerai pas. Un titre informatif, une année dure 52 semaines.
Ah oui,
donc, voilà,
c'est... Ouais, 43, c'est pas mal.
Donc,
ouais.
sur 52, il en reste 43 au top pour un premier album. Voilà.
Bon, ça va, petit chanteur.
Ça va.
Mon début.
Et un son se démarque tout particulièrement, c'est Echte Noit. Évidemment, celui-là aussi, on va l'écouter.
Oh là là. De me taire parce que je suis en train de chanter.
Bah ouais, c'est mieux. Nos auditeurs ne méritent pas ça.
Profiter de la musique.
Nos auditeurs ne méritent pas ça, Julie. Bon, et par la suite, David Carell a continué de faire son petit bonhomme de chemin. Il se fait un nom, enfin un prénom au Portugal avec son premier album et le deuxième le propulse en France, son pays de naissance. Et c'est avant tout avec les tubes Obrigado à la famille et Rien à envier qu'il explose. Et pour confirmer cette tendance, David sort un album intégralement composé en français quelques temps plus tard. Intitulé Tour Commencé, on peut comprendre que David Carell veut exporter son succès portugais en France et il le fait bien. Aujourd'hui, il est l'un des artistes lusophones les plus célèbres en France, et pas seulement au sein de la communauté luso. David n'est plus le fils d'eux, ni le frère d'eux. Aujourd'hui, David Carel est un artiste à part entière, et aujourd'hui, il joue sur la scène de Montijoz de Guimarães au Portugal. Alors malheureusement, nous, on n'y sera pas. On n'a pas cette chance, mais peut-être que l'un de vous, oui. Alors n'hésitez pas à nous montrer ça sur Instagram, tempchat2.1. Et puis quant à
on
nous...
On partage tout. Hein.
Évidemment. Moi, je te rends la main, Léa, et on écoute juste après Indecomigo.
Merci Tony, on se retrouve juste après pour la boîte mystère avec Antonin, alors restez bien avec nous, on a hâte de découvrir ce qui nous attend et on reviendra juste après pour l'interview. A tout de suite.
Anda comigo amor, prometo que eu vou cuidar de ti, se achares que foi pouco amor. A melhor versão de mim. E do nada tu levaste o meu tudo, tudo, tudo. E não tem nada, nada, nada que eu mais ame neste mundo que perder-me nos teus lábios, encontrar-me nos teus braços e ficar para sempre só nossos dois. Anda comigo, amor. Prometo que vou cuidar de ti. E se ainda achares pouco amor, dou-te a melhor versão de mim. Só tu e eu. Só tu e eu. Só tu e eu. Só tu e eu. Deixa comigo amor, que eu faço tudo para te ver sorrir. As rugas no teu rosto vão provar que eu nunca te menti. Fica comigo, amor. Por mais 50 e tantos anos de namoro, prometo continuar a ser o mesmo, ciumento e bobo. E perder-me nos teus lábios, encontrar-me nos teus braços e ficar para sempre só nós os dois. Anda comigo, amor. Prometo que vou cuidar de ti. E se ainda achares pouco amor, dou-te a melhor versão de mim. Anda comigo, amor. Prometo que vou cuidar de ti. E se ainda achares que foi pouco amor. Que vou cuidar de ti. Se ainda achares que foi pouco amor, dou-te a melhor versão de mim. Eu dou. Eu dou. Eu dou. Eu. A melhor versão.
Chat de points sur Radio Off et c'est le moment de la boîte mystère avec Antonin. Alors, on lui fait confiance, on laisse les manettes, on n'est pas au courant du jeu qui nous attend aujourd'hui.
Exactement, et aujourd'hui, c'est une variation de quelque chose qu'on a déjà fait. On essaie d'améliorer à chaque fois les différents jeux qu'on propose et c'est un jeu d'improvisation que je vous propose aujourd'hui. Vous allez tous faire une sorte de petite scénette improvisée entre nous et cette fois-ci, je vais vous donner des rôles à chacun. Imaginez que on est dans une situation un peu commune où toi, Fred, tu vas être un jeune d'environ 15 ans qui adore le sport et qui, justement, l'entraîneur, c'est Michael et les parents, c'est Léa. Et Julie, toi, par contre, t'es l'agent d'un grand club qui lui propose une place en centre de formation. Et Tony, par contre, tu es le prof principal qui va te
faire. Je pensais que t'allais m'oublier, j'étais tout content. Moi, je suis le prof principal,
moi. Moi, je suis l'agent et je veux le recruter, c'est ça.
Vas-y, c'est trop dur, je vais en scooter. Non, c'est pas ça.
Et je suis son prof principal, mais comment ça, prof principal?
Pourquoi il y a besoin d'un prof principal?
Ben oui.
Tu représentes.
Laisse-moi en dehors de tout ça, ça me va tout autant.
Qui veut garder son élève à l'école.
Ah oui, d'accord.
Ah ouais, non, moi je veux le recruter et toi tu veux le garder.
Mais c'est quoi le sport?
Ok.
On s'en fout.
Sport que vous voulez. Ouais. Sport que vous voulez. Bah, c'est toi le jeune, c'est toi qui fais.
C'est du foot. Tu lances la phrase en trop? C'est du foot.
Bah écoutez, vous êtes actuellement dans un bureau de réunion proche de. Du...
Mais attends, toi, t'es personne, toi?
On va dire il a le bon rôle, lui, hein?
Ouais, on va dire que je suis le supervisateur de tout ça. En gros, vous êtes chez les parents de Fred en fait. Du coup, qui.
Je crois qu'il y a le prof principal chez les parents de Fred.
Tu te poses pas de questions.
Attends, chez les parents de Fred, alors... tu viens chez moi.
Oui.
Chez toi. Bah, chez vous, t'es chez toi.
Chez moi. D'accord, bah, bienvenue.
Tu leur proposes pas un petit café?
Un petit café? Alors.
Eh bien, avec plaisir.
Que de l'eau.
Sans sucre.
Moi, je suis une grande sportive. Que de l'eau.
Un tour, mais sans sucre.
Ok, d'accord.
Et rapidement.
Que de l'eau, que de l'eau.
Mickaël, une préférence?
Un petit café, ouais.
Mon frère, je te propose pas, t'es un peu jeune, hein. T'es un peu jeune.
Mais c'est ton fils.
Coca. Je te rappelle du coca.
Bon, alors du coup, moi si je suis ici, c'est pas pour rien. Je voudrais recruter Fred dans notre agence pour. Il me semble que c'est du patinage artistique, non?
Évidemment, Fred est excellent dans le patinage artistique. Hein.
Ah, il a dit le sport qu'on veut. Hein. Du coup, je voudrais le recruter. Je trouve qu'il fait vraiment des bonnes stats.
Et pourquoi tu souhaites recruter mon fils?
Bah, parce que ton fils est excellent. Enfin,
encore en quoi,
ce serait à plein temps?
Oui, ça serait à plein temps, il faudrait qu'il arrête l'école, il aura des cours...
Non, 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 arrêtez l'école,
attendez. C'est trop bien, c'est trop bien.
Ça va pas être possible. Madame, nous sommes en France, c'est jusqu'à 16 ans. L'école est obligatoire, l'enseignement est obligatoire.
Ne vous en faites pas, il suivra des cours en ligne, il aura des stages pour continuer à avoir des bonnes notes et à suivre le cursus scolaire normal, mais il aura des cours aménagés et devra quitter son école.
Que pour continuer à avoir des bonnes notes, il faut se dire qu'il ait des bonnes notes. Et c'est justement pour ça que je suis là. Je suis totalement opposé à ça.
Parce c'est
que
bien, vite,
votre fils a des notes très, très, très en dessous de ce qu'il est capable de faire.
Je sais.
Et donc, je pense que ce serait contre-productif pour lui de se dessiner dans cette carrière.
Je ne suis pas d'accord avec ça.
D'abord les études.
Ouais, mais pour t'acheter une voiture, maman.
Bah oui.
À 15 ans.
T'as 15 ans, donc bon, on
non, mais moi, j'ai des arguments pour aller à l'inverse de ce que vous dites. Moi, je pense que...
Vous avez des arguments, moi, j'ai des notes.
Attendez. Au contraire, puisqu'il va faire un sport qu'il aime, il va s'y consacrer beaucoup plus. Il aura beaucoup plus envie d'améliorer ses notes et de
travailler. Attendez, Julie, j'ai envie de consulter Mickaël là. Vous en pensez quoi?
Il a un fort potentiel.
Je vais dire.
Il a un fort potentiel, surtout sur la partie artistique. pas le programme court, plutôt le programme long. Et c'est vrai.
Il fait des belles figures, non?
Bah complètement. Il est surtout gracieux sur la glace. Et c'est très important.
C'est vrai, souple, c'est mon point fort. T'avais dit coach.
Et je pense qu'il faudrait le laisser encore s'exprimer, donc aller dans sa voie. Et je pense qu'une fois qu'il aura donc trouvé sa voie, il sera beaucoup plus libéré. Et je pense que les notes s'en ressentiront.
Voilà, donc il faut qu'il vienne avec moi.
On n'a pas le temps.
Écoutez, c'est une opportunité.
C'est son destin.
Voilà, il faut au moins le diplôme et après.
Exactement.
Écoutez, moi je veux pas aller à l'encontre de ses parents. La décision vous revient. Vous êtes ses responsables légaux. La décision vous revient, mais je tiens à vous dire que c'est une opportunité qui ne se représentera pas. Si vous me dites non maintenant, c'est non. Pour toujours. Je ne reviendrai pas.
On tout voit d'autres personnes, voilà, parce que les talents, ça se recherche tout le temps.
Écoutez, faites attention au patinage artistique. Temps passe très très vite.
On a vu avec David Carrera,
qu'il
y a plusieurs vies dans une vie. Là, c'est pareil.
À partir de 19 ans, le patinage artistique.
La première porte se ferme, il rentrera par la fenêtre ailleurs.
Voilà, exactement.
Il sera peut-être ingénieur brillant.
Donc, c'est un non. Je suis désolée, Fred. Voilà.
Fred ne sera pas
c'est
la,
pas cool.
La c'est Fred, étoile du patinage artistique. Mais peut-être que par contre, tu auras ton permis. Parce que maintenant, on va changer d'histoire et on change de rôle aussi. Maintenant, on va commencer avec Tony. Qui est un prof de conduite dans
le seul qui n'a pas le permis, c'est super.
Je préviens les éditeurs que c'est faux, hein, que c'est une mise en scène. Voilà.
Surtout que c'est le seul qui n'a pas le permis, si je pense. Hein.
Après, tu l'as, mais tu conduis pas.
Justement, Tony, qui n'a pas le permis, va être prof de conduite. Donc, le prof de l'auto-école qui accompagne son élève. Julie, qui a le permis et qui ne l'utilise pas, va être examinatrice du permis de conduire.
Ouh.
En fait.
Qui passe son permis alors?
Justement. C'est toi, Mickaël, qui passe ton permis.
Mmh.
Et par contre, le problème, c'est que t'as eu un accident avec Léa pendant l'examen.
Oh. Et Léa, elle est quoi?
Bah justement, elle est une personne qui était en voiture en face.
Et il l'a renversé?
Non, il y a eu un accident de voiture. Vous nous décrirez l'accident. Et en fait, toi, Fred, tu es un témoin qui était dans la rue, t'as avec tes deux enfants avec toi.
N'oublie pas comment il t'a mis dans la sauce avec le patinage artistique.
Oh. Exactement. Non, mais... je vais commencer direct. Tony, vous m'avez ramené un élève qui me fait un accident pendant... un examen du permis de conduire. Oui. Votre auto-école, je ne veux plus jamais la revoir.
Ce n'est pas constat,
directement. Voilà.
À quel moment mon élève est coupable d'une personne qui arrive en face en contresens?
Ah, c'est votre faute, madame.
Pardon? Ah non, non, non. Non, non, non.
Complètement.
Au bout de la rue, il y a un sens interdit. Donc la voiture, elle a rien à faire là. Je suis désolé.
Complètement d'accord.
C'est le code de la route.
Est-ce que vous savez, excusez-moi, ma voiture est équipée de caméras et je peux prouver que ce que vous dites est faux. Donc.
Vous avez des caméras, moi j'ai des yeux. Il y a quoi faire dans une rue, je regarde la signalisation.
Votre parole et vos yeux ne comprennent pas. Donc vous êtes en tort et je veux un constat directement.
On va le faire le constat.
Je vous excuse également, vos excuses s'il vous plaît. Écoutez, c'est à l'élève de faire le constat. Savez-vous faire
Moi j'ai été choqué personnellement. J'étais concentré, j'essayais d'être le plus appliqué possible. J'ai vu cette voiture arriver à grande vitesse.
À grande vitesse. Ah oui.
Je ne savais plus quoi faire, j'ai perdu les moyens.
Évidemment, c'est normal. Une voiture à 90 km/h en agglomération, c'est interdit.
C'était de justement essayer de l'éviter. Je ne sais même pas si j'arriverai à reprendre le volant un jour.
Ah mince, c'est pas grave.
J'ai un vrai choc post-traumatique.
C'est totalement normal.
De toute façon, mais vous n'aurez pas donné votre permis, donc c'est pas très grave ça.
L'automobiliste est à 90 km/h.
Moi, j'ai tout vu,
Excusez-moi. Attendez, écoutez, le témoin.
J'ai tout vu, il pensait bien. On venait des courses. Et d'ailleurs, je comprends pas comment on peut rouler à 60 en première. Alors, ça, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passait, s'il se faisait engueuler ou pas le petit jeune là qui était au volant là avec le truc auto-école, j'ai pas compris. Je sais pas, il parlait, le masque de moitié sur la tête. Donc là forcément c'est pas, ça aide pas. Donc la pauvre petite dame qui arrivait en face, bah elle essaie de l'éviter. Mais bon, s'il devait arriver, arriva. Hein.
Bah oui, voilà,
qu'on doit pas avoir le permis, on l'a pas, puis c'est tout.
Hein, non mais c'est ça, c'est.
Les enfants, les pauvres.
Non, en plus, la personne la plus inconsciente, c'est le conducteur, la personne qui l'accompagnait. Excusez-moi, vous avez des pédales? Non, pour freiner.
Je crois qu'il a accéléré.
Vous pouvez
réagir.
Il a accéléré.
Non, mais... Oui, parce que j'ai vu la pédale descendre toute seule. Moi, j'avais pas appuyé dessus.
Je ne veux plus jamais voir votre auto-école. Plus jamais. Ah oui, on va lancer un procès, là, carrément. C'est plus un constat, c'est un procès contre nous.
Ah, mais que tu le fasses quoi, maintenant?
Il y a 4 versions différentes de ce qui s'est passé, non, mais...
Tu veux que je fasse quoi, moi, maintenant?
Bon, Antoine, est-ce que t'es d'accord pour virer Tony, là?
Bah là, je pense que, clairement, ça remet en cause son passage du permis. Tu le passes quand, ton dernier permis?
Si seulement je savais.
Ouais, t'as pas de date encore.
Est-ce que t'as le code?
Oh, bah, quand même.
Choc post-traumatique de l'émission, là, il va plus jamais te passer.
Tant qu'il n'y a pas les enfants.
Il va avoir Fred qui lui parle derrière. Oui, mes pauvres enfants.
Traumatisés qu'ils sont.
60 en première.
C'est moi qui paye les pots cassés du patinage artistique, vous vous rendez compte de ça?
Eh ben écoutez, c'est la fin de cette boîte mystère. Merci d'avoir participé à ce jeu d'improvisation.
Moi, je t'en remercie pas, moi.
Moi, ça m'a bien fait rire sur le côté. C'était drôle. Et ben,
merci, Antonin. Et juste avant l'interview, on va écouter une musique que vous avez choisie, Fred et Michael. C'est toujours de Abel Marta. Et on revient tout de suite pour l'interview.
On va embora. Eu quero, exijo explicação. Mil e uma vez eu te disse que é sua imaginação. Você nada viu. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal. Te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal. Te juro que pasó nada con ella. Porque te amo, porque te amo, porque te amo. Te juro que ni abrimos la botella. Sei que é difícil, mas tem que acreditar em mim. Esse ciúme não faz sentido. Sou dela apenas amigo. Depois da noite que passamos juntos, entre palavras e outros assuntos, eu não seria capaz de magoar assim a minha dama. Se você me acende a chama, quero casar contigo. Oh, 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 oh. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo. Eso no es normal, te juro que no pasó nada con ella. Porque te amo, porque te amo.
contigo para toda mi vida. Tú eres la mujer que para siempre voy a amar, te juro que te haré feliz.
Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo, eso no es normal. Te juro que ni abrimos la botella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo, eso no es normal. Te juro que no pasó nada con ella. Puedes hacer de todo, solo no me dejes solo, eso no es normal. Te juro que ni abrimos la botella. Porque te amo.
Porque te amo.
Te juro que ni abrimos la botella.
Tout de suite, l'interview de Tempshot 2.1 sur Radio Alpha avec Mickaël Alves Rodriguez et Fred Faria. Alors, tous deux champions du monde, champions d'Europe de kettlebell, avec bien sûr d'autres titres qu'on va découvrir. Mais avant, on va parler de votre parcours, et puis on parlera ensuite de vos records et de ce que vous a apporté la lusophonie. Alors, avant de rentrer dans les détails de kettlebell, on a de la chance, vous avez ramené une kettlebell. Alors, c'est un petit accessoire de sport originaire des pays de l'Est. Il s'agit d'un poids donc surmonté d'une poignée en U. Donc voilà, j'essaye de vous faire visualiser ce que c'est. Mais avant de débuter, on avait une question, bien sûr. Comment se pratique ce sport ?
En compétition. Alors c'est un sport qui fait une durée de 10 minutes à 1 heure pour certaines épreuves. Donc c'est 10 minutes, une demi-heure ou une heure. Le poids varie pour 10 minutes, c'est ou 32 ou 40 kilos. Sur une demi-heure, ça peut être 24 ou 32. Je parle des hommes. Et sur une heure, c'est 24.
Donc c'est plusieurs répétitions avec la kettlebell.
Voilà. On fait un mouvement donné, donc ou l'arracher, ou l'épauler, jeter, ou le jeter, sur le temps donné, sans jamais poser la kettle. Donc sur une demi-heure, 10 minutes ou une heure, il ne faut pas poser la kettle.
Oui, c'est très très physique. Ouais. Et avant d'en arriver justement à tous ces records, que faisiez-vous avant et qu'est-ce qui vous a poussé à l'utilisation du kettlebell ?
Moi, à la base, je suis boxeur. J'ai boxé de l'âge de 8 ans à 24 ans. Je fais à peu près 70 combats. Après, j'ai eu un accident de la vie qui a dû m'écarter des rings puisque je ne pouvais plus prendre de choc, en tout cas au niveau de la boîte crânienne. Du coup, j'ai dû donc prématurément me reconvertir.
D'accord,
oui. J'ai décidé de prendre le métier de coaching parce que j'ai toujours eu la fibre pour entraîner. Oui. J'ai toujours su que je terminerais entraîneur, sauf que j'avais pas prévu de le faire si tôt en fait. Et voilà. Et du coup, j'ai décidé de passer entraîneur. Donc, je me suis passionné, je me suis investi à 2000% dans ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tous les types de préparation physique, notamment les préparations physiques issues des pays de l'Est. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai vu qu'ils utilisaient beaucoup le kettlebell, qui était totalement inconnu en France. Même pas dans les salles de muscu, on les voyait à l'époque où moi, je m'y suis intéressé. Et voilà, en échangeant avec un ami, il m'a dit qu'il connaissait le numéro 1 français et qu'il faisait des formations. Et donc, tout de suite, je me suis rencardé sur une formation parce que je voulais apprendre à l'utiliser pour pouvoir coacher mes boxeurs et les préparer du mieux possible.
Et t'as retrouvé des similarités avec la boxe et le kettlebell, justement ?
Ouais. En fait, ensuite, lorsque j'arrive au stage, donc je connais le numéro 1 français qui est en train de développer ce sport en France. Il est en pleine création de la première équipe de France de l'histoire. Il m'explique que c'est, en plus d'un outil de préparation physique, que c'est un sport à part entière. Et là, il me montre les vidéos et je vois les compètes dans les pays de l'Est. Et tout de suite, j'ai un coup de cœur, quoi. Je sais pas, on est sur la plateforme, ça se bataille, y a de l'émotion, y a des retournements de situation parce que des fois, t'as le mec qui est devant et dans les dernières minutes, tu le repasses devant. Enfin, y a tout ce que j'aime dans le sport. Et du coup, j'ai dit, mais c'est génial et tout. Et il me dit, écoute, moi je pense que t'en as les capacités, je t'ai observé toute la journée, t'en as les capacités. Je dis, mais non, moi c'est fini la compète pour moi, tatata. Non, tu devrais pas. Écoute, on fait un test, je t'inscris à l'Open de France, qui est une petite compète. On voit ce que ça donne et t'as rien à perdre. Et puis après, on voit. Et du coup, c'est comme ça que ça a démarré l'aventure. J'ai fait ma première préparation, je vais à l'Open de France, il y avait au moins une dizaine de mecs dans ma catégorie. Et je bats tout le monde, dont des costauds du CrossFit. Oui. Et voilà.
Et du donc, tu as rejoint ensuite l'équipe de France.
J'ai dû passer des étapes avant. Voilà, j'ai dû faire quelques stages et quelques tests avant de pouvoir y rentrer officiellement. Mais oui, après, je suis rentré en équipe de France.
Et toi, Fred, comment tu as débuté dans ce milieu ? Est-ce que tu pratiquais un autre sport à côté aussi ?
Pendant plus de 20 ans, j'ai fait du judo.
D'accord.
J'ai fait en compétition. Et après, je me suis arrêté parce que un peu de lassitude. Et je voulais un outil de préparation physique fonctionnelle. Je voulais pas forcément prendre du volume, mais je voulais être efficace. Et du coup, j'ai croisé la route d'un sportif de haut niveau en judo que j'ai vu utiliser ses boules avec des poignets. Ouais. On a parlé pendant longtemps et du coup, j'ai acheté mes premières kettles sans savoir que la compétition existait.
Ok. Voilà. Tu t'entraînais de ton côté au début tout seul.
C'est ça.
D'accord. Et t'as trouvé toi aussi des similarités avec le judo et le kettlebell?
Ah, carrément. Ouais.
Ouais, surtout carrément. Pour l'effort physique.
C'est ça. Parce que beaucoup d'athlètes russes en judo s'entraînent avec des kettles.
D'accord.
Voilà, les russes, des lutteurs, des judokas. Et en fait, moi, en judo, il y a beaucoup de tirages, beaucoup d'arrachés. C'est pour ça que je me suis orienté vers le mouvement de l'arraché pour soulever. Et Mika, c'est pour ça qu'il fait des mouvements de pousser, parce que la boxe et des coups.
Voilà. Et selon vous, quelles sont les compétences physiques et mentales, hein, d'ailleurs, à avoir pour pratiquer sport? Imaginons que nous, on s'y mette aussi. Quelles sont les compétences à avoir?
Je pense que les compétences physiques... Il faut quand même avoir une bonne endurance, il faut avoir quand même un peu de puissance. Mais je pense que ce qui est primordial dans tout ça, c'est le mental. Parce que je ne suis pas le même mec qu'il y a 8 ans. Donc je me suis même découvert des capacités physiques que je ne connaissais même pas. Tu vois. Donc moi, je pense que c'est la rigueur qui prime dans ce sport et le mental. On en a vu plein qui ont commencé, qui n'étaient pas du tout doués au départ. Et voilà. Donc je pense que... Parce que c'est un sport qui demande énormément de travail. Énormément, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de répétitions. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le supporter, on va pas se mentir. Nous, on a déjà vu des gens très doués qui venaient de l'haltérophilie, du crossfit. On s'est dit, oh, c'est le futur champion. Et le mec, il tient un an. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dur, c'est de durer. C'est la rigueur que ce sport te demande. Mmh. C'est du 6 sur 7, c'est tout le temps, si tu peux pas... C'est dur, hein. Franchement, oui, c'est dur.
J'ai pu lire que c'était un mélange entre l'haltérophilie et les arts martiaux.
C'est ça.
Pour justement atteindre la perfection
Au final. Voilà, exactement. Il faut répéter pour avoir le mouvement parfait, le bon mouvement, la bonne technique, la bonne respiration.
C'est ça, ouais.
Et en parlant donc de cette répétition, de tout ce travail, quels sont vos exercices les plus récurrents, comment sont conçues vos séances?
Alors, une séance est faite en trois blocs, trois parties. Tout ce qui est échauffement, évidemment, ça c'est classique à tous les sports. Il y a un exercice de pré-entraînement. Moi, par exemple, pour l'arraché, je ne vais pas faire de l'arraché tout de suite. Je vais commencer par des swings. Ce qu'on appelle les swings, c'est un mouvement de balancier. Et je vais faire un peu de squat. Voilà.
D'accord.
Et après.
Avec le poids déjà?
Avec le poids déjà, voilà. Et après, je fais ce qu'on appelle le corps de la séance, c'est-à-dire l'objectif de la compétition. Donc si je veux faire une demi-heure, si je veux faire une épreuve à 32 kg, une demi-heure, je vais faire 6 blocs de 5 minutes, ou après, au fur et à mesure de la compétition, je vais faire plus long.
Cette partie-là, c'est la partie la plus modulable.
Voilà, c'est ça. C'est celle qui évolue le plus. Et en fin de séance, on fait tout ce qui est gainage, tout ce qui est, par exemple, basique pour moi, c'est travailler le grip. Travailler le pareil, je refais des swings mais beaucoup plus lourds. Et pour Mika, ce serait plus tout ce qui est à base de squat sauté.
D'accord.
Des pumps, des machins, travailler les épaules avec des presses. Voilà, c'est des exercices d'assistance, on appelle ça.
D'ailleurs, le kettlebell swing, tu en parlais. Et il est recommandé à tout le monde, hein, d'ailleurs, d'en faire pendant quelques minutes par jour pour pouvoir renforcer l'ensemble de sa musculature.
En fait, c'est le mouvement le plus complet et c'est surtout le mouvement qui renforce efficacement les lombaires. Et il faut savoir que les lombaires, c'est un peu la maladie du 21e siècle. Mmh. Moi, je suis coach sportif, je coach tout profil. Donc, ça peut être la dame lambda de 60 ans qui a besoin de faire du sport, qui vient d'arriver à la retraite. Comme ça peut être le sportif de haut niveau qui prépare une compète. Donc, j'ai vraiment plein de profils différents. Et c'est vrai que le truc qui revient tout le temps, c'est ce fameux mal au lombaire. Tout le monde a mal au lombaire et de plus en plus jeune. Je vois des gars à la salle de boxe, que je suis aussi coach spécialisé en boxe, je vois des jeunes de 16 ans qui se peignent déjà des lombaires, quoi. C'est grave. Donc le kettlebell swing, ce mouvement de balancier, c'est hyper efficace pour développer la condition physique, le cardiovasculaire et surtout renforcer les lombaires.
Toute la chaîne posturale, en fait. Lombaires, fessiers, ischio. C'est équilibré les trois. Ouais.
De redresser son dos également.
Ouais. J'ai pas les mêmes... les mêmes processus que Fred au niveau
ça varie selon la génétique également, je pense.
Ouais, puis en fonction de l'exercice qui est demandé en compétition.
Et donc, à propos des compétitions, comment ça se déroule
Bien.
Généralement, le coup... Bien, oui. Bien, j'ai plus l'apercevoir. Et comment ça se déroule assez bien. Mais comment ça se passe un concours, les étapes, justement. Est-ce que vous avez un petit rituel avant de commencer?
Ça balance.
Ça balance fort. Là, nickel.
Alors, le match, c'est maintenant ça.
J'ai que ça moi-même.
C'est pas parce que. C'est le signe des champions.
Ouais, je sais pas.
Tu regardes Nadal quand il joue au tennis, c'est toujours les mêmes
ouais.
trucs.
Ouais, je suis hyper superstitieux. En tout cas, moi, je vais parler à moi, hein, parce que là, pour le coup, c'est vraiment personnel, hein, s'il n'y a pas de grandes règles. Alors, moi, déjà, c'est hyper important que la prépa se passe sans problème, déjà. Pas de blessures, pas de choses qui vont... Ouais, non, mais parce que ça arrive, malheureusement. Il y a ça, il faut que tout ça, ça se passe déjà correctement jusqu'au jour J. Après, lorsqu'on part, donc ça peut être des voyages assez loin, ça dépend, les pays... On va dire que pour faire simple, déjà il y a l'étape de la pesée qui, moi me concernant, est le premier gros première grosse étape.
Alors la pesée, c'est-à-dire
Le premier jour quand tu arrives, tu vas t'enregistrer, donc tu arrives, on enregistre l'athlète et on le pèse. Et donc en fait, je dis ça parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire ma caté, c'est le plus dur pour moi, c'est la diète. Donc déjà moi le premier combat, c'est d'arriver au poids, parce que des fois c'est une histoire de quelques grammes le matin de la compète, des fois j'ai que 100 grammes de marge, quoi. Tu vois, ou même des fois je suis obligé de pas manger durant toute la journée pour que le soir je sois pile poil au bon poids.
Et qu'est-ce qui se passe si t'es en trop, justement, tu parles, tu élimines la compète?
Non, ça va, par rapport à la boxe où là on va t'obliger à perdre les grammes, etc. T'as deux choix, t'as une heure butoir de la pesée, soit tu perds tes grammes si t'as que quelques grammes avant la date butoir, soit tu passes dans la caté supérieure, mais le problème c'est que ça va t'obliger à repayer. Il y aura beaucoup de frais en fait pour la fédération, parce que ça va te demander de repayer, et souvent tu payes une amende en plus.
Ouais.
Donc ça va. Enfin, c'est une histoire financière, mais ça peut coûter cher.
Et puis les mecs du dessus sont où?
Ben, c'est ça.
En théorie, voilà, c'est pas toujours le cas, mais proportionnellement ils sont plus à l'aise, donc c'est meilleur.
Ouais, on se connaît tous dans ce sport maintenant, parce que nous on a quand même un peu d'expérience. On se connaît tous, donc c'est vrai que généralement, bah toi tu t'es entraîné, tu sais plus ou moins sur qui tu vas tomber, t'as mis un game plan en place, t'as fait toute une prépa, donc à la dernière minute, sauter de KT, ça quand même, ça perturberait pas mal de choses. Voilà. Et puis après, moi, au niveau des rituels, voilà, j'ai toujours mon chapelet avec moi, je prie le soir, je prie avant la compète, j'ai l'alliance de mon grand-père qui est décédé, qui est dans mon cycliste, où j'ai fait une poche spéciale pour qu'elle soit là avec moi, j'ai la clé du cercueil à mon grand-père que mon père me remet à chaque fois avant de partir. Plein de gris-gris, je fais le signe de croix trois fois, il faut que tout se passe, voilà. Très rituel, moi. Ouais.
Mika va préférer écourter l'échauffement plutôt que zapper un de ses... Mais c'est pas du tout une critique, c'est au contraire, c'est très bien, parce que dans ce sport, c'est très bien que le mental, il joue un rôle important.
Oui,
quand au bout de, je sais pas moi, 20 minutes, t'as une kettle de 32 qui te pèse, qui te prend sur la poitrine, t'as plus d'air parce qu'il fait 40 degrés, il n'y a pas d'air. 20 fois, 30 fois, t'as envie de dire, ouais, c'est bon, je la pose, je me casse. Mais non, t'es obligé d'encore durer 10 minutes, tu vois. Donc non, ce qu'il fait, c'est très bien pour son mental et tout ça. Et c'est ce qui fait qu'il est aussi fort aussi. Ça et le travail qu'on fait au quotidien, évidemment.
Parce que ça paye. Et toi, t'as un rituel, Fred?
Bof.
Non.
Non, moi, je suis... Alors, moi,
il y est le jour même, et puis voilà.
Non,
voilà,
moi, je suis un peu plus à l'arrache. Non, je suis un peu plus à l'arrache.
C'est vrai, en plus. C'est très nonchalant, lui. C'est vrai.
Ah ouais, moi, c'est... On sait pas si je vais bien ou pas.
D'accord.
Pendant le concours, voilà. Si j'ai un petit rituel, mais qui se passe pendant la compète, c'est que j'accélère toujours à la fin.
D'accord.
Voilà, j'ai un finish qui est plutôt bon.
Fort, ouais.
Mais sinon, j'ai pas de rituel. Voilà, j'ai un échauffement classique, mais j'ai pas de rituel.
Parce que maintenant, quand même, on se connaît bien. Je pense, si moi je devrais te donner à toi un rituel, je le dirais que le rituel, il est alimentaire.
Ouais.
Toi, c'est vrai que la veille de compète, tu manges les.
Il faut que je mange des graines
germées.
Ouais, des graines germées. graines germées et un mélange de riz lentilles. Voilà.
Ah oui, ok.
Ouais.
Voilà. Très strict.
Il est très. Voilà. Ouais. Donc lui, son rituel, il est vraiment ça. Et c'est vrai que la veille, il pourra pas manger autre chose que ça, quoi. Ouais. Il est très sur ses petits trucs avec l'alimentation.
Après, c'est autre chose.
Et donc toi, après, tu débutes en compétition en 2017.
Ouais.
Est-ce que tu te rappelles de ton premier concours, ou du moins, est-ce que est-ce que c'est lui qui t'a le plus marqué?
Il m'a marqué. Le plus, non, mais il m'a marqué parce que moi, j'avais une compagne à l'époque qui s'entraînait dans une salle de sport où Mika était coach.
Okay.
Et donc, ma compagne de l'époque me dit, tiens, j'ai vu des kettles dans la salle. Il y a un gars qui fait de la kettle. Donc, il y a une relation tous les deux. Et Mika me dit qu'il y a une équipe de France où on fait des compètes, machin, tout ça. Je dis, ouais, pourquoi pas. Donc là, je crois qu'on était septembre-octobre. Et Mika a organisé le premier championnat de France à Auxouer-le-Vougy en février, je crois.
En février, ouais.
En février. Et du coup, bah, je me suis inscrit et j'ai fait les minima pour commencer, comme disait Mika, les étapes pour entrer en équipe de France. Voilà. Okay. Donc, première compétition, voilà.
Et celle qui t'a le plus marqué, tu n'es pas prêt d'oublier.
Bah, il y a eu les deux dernières, là. Les deux dernières en Italie, parce que les conditions. Parce que on avait eu une saison ultra compliquée avec Mika. Il y a eu des difficultés. Enfin, c'était vraiment compliqué, aussi bien au niveau privé que sportif. C'était compliqué. C'était une nouvelle fédération pour nous, parce qu'il faut savoir qu'en kettle, c'est comme en boxe, il y a plusieurs fédérations. Et la fédération qu'on avait, on s'était présenté en juillet dernier, c'est la fédération pré-olympique. C'est-à-dire, elle a été reçue par le CIO pour éventuellement faire entrer les kettlebell sport en milieu olympique. Et donc, il y avait toute une organisation. Ça faisait en fait comme à la télé.
D'accord.
Le podium, les hymnes. Ouais. Nous, quand on a été sacré champion du monde, nos photos sur grand écran, enfin, avec l'hymne portugais. Enfin, voilà, ça fait des frissons, quoi. Donc, celle-là, parce que condition nantaise, qui faisait, je crois, je disais 40 tout à l'heure, mais c'était un petit peu plus. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de vent, c'était en plein juillet en Italie. Enfin,
oui.
Il y a eu énormément de malaise.
Ouais. Il y a eu énormément d'abandon. Puis la moitié sur les épreuves d'une demi-heure, puis la moitié n'ont pas fini.
Ah ouais, okay.
Énormément d'abandon, les gens qui sortent sous oxygène et tout. Hein.
Il y a eu ça. Et il y a eu le dernier championnat du monde là, où Mika fait le doublé à 40 kilos. Et moi, je fais champion du monde à 40 et sur une demi-heure à 24, peu de temps après aussi.
Où il bat un Américain.
Où je bats un Américain. Et
qui était devant lui. Voilà, il lui passe devant dans les dernières minutes. Ouais. Enfin, il lui fait un hold-up. Hein,
ouais.
L'Américain, il est tout le long pendant 20 minutes. Ouais. Il est devant toi.
Il a 15 répétitions avant moi à 3 minutes de la fin. Et à 3 minutes de la fin, j'en passe deux d'avance.
Ouais, on était contents.
Trop bien. Et toi, Mickaël, t'as une compétition qui t'a marqué?
Ouais, je pense, en termes d'émotion, on va dire l'Italie, c'est sûr, parce que c'est le premier titre mondial pour le Portugal.
Deux titres, d'ailleurs.
Doublé, exactement, doublé la même journée. Oui. Doublé la même journée. Une journée qui a été particulièrement compliquée parce que c'était la journée la plus chaude de la semaine. Il y a eu énormément d'abandon. Je voyais les gens tomber, sortir sur civière et tout. C'est marquant, ça te fait augmenter ton facteur de stress. Et j'ai énormément souffert. Faut voir dans l'état que j'ai terminé. J'ai jamais terminé comme ça. J'avais des crampes qui me prenaient de partout. Enfin, de la 15e à la 30e minute, il n'y a pas une minute où je me suis pas dit, c'est bon, j'en peux plus. J'en ai marre, je lâche. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à finir les 30 minutes. Mais ça a été. Ouais, sûrement. Mais ça a été hyper dur. Franchement, ça a été hyper dur. Et le matin, je bats un Ukrainien qui est trois fois champion du monde, qui est une pointure et qui a de l'expérience. Donc je bats un nom le matin. Donc déjà, j'étais content. Mais ça a été l'après-midi. T'as fait une demi-heure le matin, t'as bataillé avec un Ukrainien, on s'est fait la guerre, tu gagnes. Et après, il faut que 3 heures après, tu reviennes et que tu repartes.
Avec la chaleur en plus.
Exactement, dans le moment de la journée. Tu sais, on regardait sur Google la météo et on voyait que le pic de chaleur était entre 14h et 16h. Moi, je passe à 14h30. Quand ça veut pas, ça veut pas, quoi.
Je passais juste après.
Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'air parce qu'à cause du Covid, ils ne pouvaient pas équiper de la clim et tout ça. On était encore sur l'après-Covid. Donc voilà, je pense que c'est ça.
Il n'y avait pas de masque, rassurez-moi.
Protocole carré et tout, mais bon, voilà, c'était dur. Donc ouais, on va dire parce que c'est les premiers pour le Portugal.
Moi aussi, ouais.
Voilà. Mais après, la Grèce restera aussi en 2017 mon premier titre de champion d'Europe. Et là, c'était 1 heure à 24 kilos dans des conditions climatiques similaires à l'Italie. Et ça reste à ce jour les deux compètes où j'ai le plus souffert, quand je te disais tout à l'heure que on se découvre parfois des qualités qu'on n'imaginait même pas, bah là c'est le cas. Je me serais jamais imaginé aller au bout de ça. Donc je me suis.
Mais t'as réussi et grâce à Dieu.
Non, c'est vachement essentiel. T'apprends vachement sur toi en fait.
Exactement.
Tu peux pas te mentir. Ouais. Si tu bats un adversaire, Voilà, tu sais, tu bats un adversaire, par exemple, ce soit en sport d'opposition ou en tennis ou machin, ce que tu veux, tu peux dire que le mec était blessé, tu peux dire ce que tu veux. Mais là, c'est toi et toi-même, en fait.
Avant même de penser à tes adversaires, tu te bats déjà contre toi. Parce qu'il faut terminer la durée, et t'as pas le droit de poser.
T'es bien pendant 25 minutes.
Et à côté, t'as des gars, ils veulent la même place que toi. Donc c'est
Et vos prochaines compétitions, est-ce qu'on peut vous voir, vous retrouver?
Alors là, on est en pleine prépa, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Dans 4 semaines, championnat du monde IKMF.
D'accord.
Nous, là, on s'est lancé un gros défi. Ça, c'est un peu à cause de moi. En fait, j'ai envie de voir le Portugal sur le podium des pays. Tu sais, il y a un classement en fait en fin de compétition des meilleures nations comme au JO.
Ouais.
Et bon, comme j'ai mes petites oreilles qui traînent partout, je sais que dû au conflit avec l'Ukraine, il y a pas mal de grandes nations qui ne vont pas pouvoir se déplacer pour la guerre.
Notamment les pays de l'Est, n'est-ce pas ?
Voilà. Donc nous, dans l'équipe nationale portugaise, on est 3. Mais j'ai appris que la plupart des pays viennent un peu dépouiller dans le sens où c'est des nations qui viennent d'habitude à 15, à 20. Et là, ils viennent à 3, à 5. Donc,
y a une place à
j'ai commencé à me faire des calculs, tu vois. Et je me dis que si moi, je fais 3 épreuves, que je réalise le triplé, puisque pour l'instant, mon record, c'était le doublé. Et moi j'aime bien aller toujours chercher quelque chose de plus. Ouais. Après ça passera peut-être pas, hein, mais bon, on va l'attendre.
On va tenter.
J'ai réussi à le convaincre d'en faire 3 aussi.
Ah bah super.
Et du coup,
va le faire.
C'est pas
moi je regarde, moi j'admire.
Et il y a l'autre athlète, Louzo, qui on va essayer de le convaincre à en faire 2. Donc si on fait un tiercé gagnant qui va être très dur à faire, mais on a les capacités.
Il y a moyen.
Carrément.
Je pense qu'il y a moyen qu'on soit sur le podium du classement par équipe. Ce qui serait un exploit parce qu'on a que 2
inscriptions.
Donc c'est dans 4 semaines,
championnat du monde.
Et vous nous tiendrez au courant.
Avec grand plaisir.
Tony, tu diras ça dans ta rubrique.
On court dans les catégories les plus lourdes, 40 kg 10 minutes, c'est les catégories les plus lourdes qui existent, et sur une demi-heure.
Voilà. Enfin, 2 épreuves, une demi-heure, une épreuve
à. Et en tout cas, nous, on repartagera les dates de vos compétitions sur notre compte
Instagram. Et juste après, on rentre du mondial, on a une semaine de repos. On a 3 semaines de réglage et on s'envole pour Porto pour le championnat du monde WKSF, la fédération pré-olympique. On a été titré en Italie.
Voilà. Et justement, en parlant de Porto, on va revenir juste après une courte pause pour parler de ce que vous apporte la lusophonie, justement, de votre rapport par rapport au Portugal, de la sélection que vous avez montée également ensemble. A tout de suite. Stade 2.1, on est toujours en interview avec nos champions du monde de Kettlebell, Mickaël et Fred. Alors, j'ai poursuivi mes questions avec vous. On parlait de ce que vous apporte la lusophonie et de vos prochaines compétitions à Porto. Mais avant, Julie, elle a une question secrète pour vous.
Toutes les semaines. Alors, ma question cette semaine, est-ce que vous n'auriez pas, pour moi, une anecdote honteuse en compétition ?
Personne ne nous écoute.
On est juste entre nous là, c'est juste
moi. Honteuse, c'est-à-dire nous concernant nous ou qu'on a vu
Les deux, ouais.
Mais... Non, coup de la soupe de poisson, c'est pas honteux.
Ah ouais, non. Toi tu peux raconter la soupe de poisson, moi je peux raconter l'Irlande.
Allez-y, on vous écoute.
Les honteuses, il n'y a que moi qui peux les avoir parce que moi tu sais, je suis un peu le bout en train en équipe de France, j'ai toujours été un peu comme ça, je suis un peu l'animateur.
Honteuse,
Allez, lance-toi, Mickaël.
Donc championnat d'Europe 2018, Irlande, hôtel.
Oui.
Voilà, moi je suis un couche-tard, Netflix addict, tout ce que tu veux. Du coup, tout le monde devait se coucher tôt. Je me mets dans la chambre, donc on était dans des grandes chambres à 3. Et moi je me mets dans les toilettes, et je me fais ma petite soirée quoi. Petite tisane, je me mets Netflix et j'avais ramené une vape. Je vapotais, tu vois. J'aime bien la chicha le soir, ça détend. Et donc là, j'avais pas ramené la chicha en compétition, donc j'ai ramené la vape. Et je vape, et je vape, et je vape, et je vape, et je regarde ma série, tout c'était Gomorrah, je crois, à l'époque.
Je le sens.
Du coup, arrive un moment, je me dis, c'est peut-être temps d'aller dormir, tu vois. Et là, j'ouvre la porte, nuage de fumée, sonnerie de dingue. 5 minutes après, le mec, il toque. You are a criminal, nanana. Il confisque ma carte bleue, ça réveille tout l'hôtel. Voilà, je vous passe les détails. Tout le monde m'a maudit. Le lendemain, on a dû négocier dur parce qu'il voulait qu'on paye une amende, mais de dingue. Ça va qu'après le directeur est venu, il a été conciliant, il m'a rendu ma carte bleue, mais en tout cas, voilà, j'ai appris qu'en Irlande, c'est très, enfin, pour eux, c'était, mais j'avais commis un crime, quoi. Et surtout, tout le monde m'a maudit parce que ça a réveillé tout l'hôtel.
toutes les nations, tout le monde. Donc le lendemain, tout le monde me montrait du doigt. Ah, c'est lui. Donc grave la honte pour moi.
Je suis vraiment satisfaite de
cette honte. C'est trop la honte pour moi.
Il faut le faire quand même.
Ouais, d'ailleurs, ça m'a valu un petit remontrance en équipe de France. Ça aurait pu même me coûter ma place. Mais bon.
Et donc, pour revenir à cette interview, pour parler de la Catabelle au Portugal, alors vous avez monté la sélection, c'est ça?
Ouais. En fait, il y avait un représentant portugais au Portugal qui peine à développer depuis 10 ans là-bas, mais il n'arrivait pas à avoir une équipe nationale compétitive. Voilà. Et du coup, moi, j'avais fait un peu le tour en équipe de France. Et du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien finir comme ça, en fait. J'aimerais bien finir ma carrière pour mon pays et voilà, essayer d'en ramener le maximum de titres. Et donc voilà, on est rentré en contact avec lui. Je lui ai dit, écoute, toi t'es tout seul là-bas, nous on est des Luso descendants, viens, on s'unit et du coup on pourrait concourir dans les deux fédérations majeures de ce sport, etc., etc. Et donc voilà, j'en ai parlé à Fred, il m'a dit mais carrément. Et puis voilà, l'aventure elle a démarré comme ça il y a 2 ans.
Qu'est-ce que ça vous apporte justement la lusophonie?
Un sens à ce qu'on fait, ouais. Concrètement, parce que depuis qu'on est sous les couleurs du Portugal, il y a vraiment il y a les frissons, mais vraiment, il y a les frissons, il y a tout ça. Puis, on se représente, nous. Attention, on est content d'être français, d'avoir vécu en France et grandi en France, c'est pas le souci. Mais c'est que vraiment, là, il y a un truc en plus.
Ouais.
Les couleurs, l'hymne.
Vous avez été promis à vous faire
bah, c'est ça, déjà. Ça, déjà. Ça.
Ouais, on voulait marquer l'histoire. Et puis, on se dit, on aura été les premiers, on a ouvert la route, on espère voilà. Qu'il y en aura plein d'autres derrière nous.
Et puis, on abordait le sujet tout à l'heure avec Julie, c'est que dès que t'es portugais et que tu fais un truc en France, t'as toute la communauté, des gens que tu connais pas. Ouais, c'est bien ce que vous faites, machin, tout ça. Alors, nous, on est dans le jus, donc. On n'est pas conscient de ce qu'on fait, mais les gens nous le rappellent et ça franchement, c'est super cool.
Ouais, bah nous, nous arrive la même chose avec cette émission. Avec la Terre, exactement. Ouais. Et donc, rendez-vous à Porto, quand est-ce qu'on a rendez-vous?
Alors, le 5 juin à Porto, dans la banlieue de Maia. Et voilà, championnat du monde, fédération pré-olympique. Et on va tenter le triplé.
Allez, ça va le faire. On croit en vous.
Merci beaucoup. Légal.
Et pour conclure donc, cette interview, le Fast and Curious. Alors, deux options, vous devez choisir celle que vous préférez, d'accord?
Le plus vite possible.
Alors, chanter ou danser?
Chanter.
Danser.
La boxe ou kettlebell?
Kettlebell.
Ah bah...
Ton père ou ta mère?
Kettlebell. Kettlebell.
Sage ou superbok?
Superbok.
Sage.
Ah, mais c'est pas d'accord, hein. Être coach ou être élève?
Coach.
Feijoada ou bacalhau com natas?
Feijoada.
Rap français ou rap portugais?
Portugais.
Rap portugais.
Le nord ou le sud du Portugal?
Nord.
Bah, vous êtes d'accord sur la dernière. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission.
Merci à vous, c'est super sympa.
C'est
merci.
Super et on vous encourage vous pour
top.
La suite.
Merci,
vous
merci.
Êtes top et également.
On y croit pour le podium.
Vous êtes la fierté. Voilà, on y croit. Vous êtes une fierté pour nous et pour le Portugal. Alors, l'émission, bien sûr, touche à sa fin. Alors, n'oubliez pas, on a toujours le concours pour gagner la BD sur notre compte Instagram. On a le Portugal Comedy Club qui est bientôt sold out, donc prenez vos places. Et pour finir, n'oubliez pas ce soir d'avancer vos montres d'une heure. On passe à l'heure d'été. Donc voilà, le petit rappel. Et nous, on continue à se donner rendez-vous sur notre compte Instagram de la semaine, Kampstadt 2.1. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end. Merci Fred et Mickaël.
Merci à vous.
Et bon week-end à tous.
Ciao, ciao.
À
la semaine prochaine.